Et bienvenue dans le Paris Central Show. Comme tous les samedis midi 30, on est avec Kevzor, on est avec Rekoba. Lendemain de défaite du Paris Saint-Germain. J'espère que vous avez apprécié le débrief de hier soir. Aujourd'hui, on va faire une émission qui a déjà ses sujets, donc on ne va pas forcément revenir en détail sur le match, mais il y a des sujets qui sont en corrélation avec ce qui s'est passé hier soir, notamment le premier sujet qui concerne Ousmane Dembélé. Alors la question sur Ousmane, c'est est-ce que Dembélé peut passer un cap au Paris Saint-Germain ? Parce que j'ai l'impression qu'en 2016, on disait Dembélé, ce sera un monstre quand il aura de la finition. En 2018, j'ai l'impression qu'on disait la même chose. 2020, j'ai l'impression qu'on disait la même chose. En 2023, Ousmane Dembélé va avoir 26 ans s'il ne les a pas déjà. Est-ce qu'il peut passer un cap ou est-ce que le joueur il sera toujours comme ça ? Vas-y, Kevzor.
Moi, je pense que déjà, le premier cap le plus important qu'il doit passer, c'est enchaîner plus de 10 matchs sans se blesser. Parce qu'après, si tu es blessé, forcément, ben, tes stats elles sont beaucoup plus difficiles à faire. Donc j'ai l'impression que physiquement le mec est quand même en canne parce que il fait quand même beaucoup de courses défensives, offensives. J'ai pas l'impression qu'il est jeune en sachant qu'il a joué aussi une trêve internationale, un titulaire et un où il est rentré en cours de match. Donc moi j'aimerais qu'au PSG déjà il passe ce cap-là, de pouvoir faire une saison pleine, deux saisons pleines, trois saisons pleines. Maintenant après je pense sur le cap statistique en termes de buts, je pense pas que il mettra 20-30 buts par saison. C'est un gars, moi, où je l'attends, c'est déséquilibrer les défenses et faire stater des autres joueurs. Je pense que c'est un joueur qui doit être capable de faire une vingtaine de passes décisives, toutes compétitions confondues, bien entendu, au PSG. Maintenant, je pense également qu'il est quand même capable de passer un cap. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Mohamed Salah, qui a passé un cap à peu près à la même tranche d'âge qu'un Dembélé, c'est-à-dire à 25 ans. Même si Dembélé est un peu plus âgé, où il a commencé à stater de plus en plus à Liverpool et où sa finition en fait a été capable, où il a été capable de maîtriser un peu plus, je pense, ses émotions et de gérer un peu plus sa finition devant le but. Donc, je pense qu'il en est capable. Maintenant, il y a un facteur qui est très très important, c'est mental. Je pense que hier, quand il ne joue pas avec Ramos, je ne suis pas convaincu que ce soit du boycott ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un gars qui a besoin de se mettre mentalement bien parce que pour le moment, je crois qu'il a 0 but, 0 passe D au PSG. Et je reste convaincu que c'est un joueur qui a la capacité de le faire parce qu'à Dortmund, l'année post-Barcelone, je crois qu'il fait quand même une saison en termes de stats qui est quand même plutôt très intéressante. Donc, je n'ai pas les stats sous les yeux, mais je crois, si je ne me trompe pas, qu'il avait quand même fait une super saison en termes de stats, et il tire en plus les pénaltys, donc voilà, mais je pense qu'il est capable de passer un cap, bien sûr. Maintenant, il ne marquera pas autant qu'un Mbappé, que de grands joueurs en termes de finition, mais je pense qu'il est capable au PSG de faire facilement 10 buts, 10 passes D, ou du 15-15 toutes les saisons, et c'est normalement ce qui doit être mis sous Dembélé. Concrètement, c'est la barre qui doit se fixer.
T'es muté, Nix.
Ouais, Nix, t'es muté, ouais.
Je te disais, toi, Rico.
Ouais, bah, difficile d'être optimiste là-dessus parce que, comme tu l'as dit, il a 26 ans ou il va avoir 26 ans. Et Dembélé, surtout, ça fait longtemps qu'il a éclos. On le suit depuis qu'il a 17 ans, 18 ans. Donc, ça fait maintenant 8 ans, 9 ans au top niveau. Donc, c'est vrai que, passé toutes ces années, au final, les qualités sont toujours les mêmes et les défauts sont toujours les mêmes. Donc, à partir du moment où les défauts sont toujours les mêmes, après tant d'années, c'est vrai que c'est un peu délicat de penser qu'il va pouvoir passer un cap. Maintenant, ce qui est vrai, et je suis complètement d'accord avec Kevzor, c'est le fait d'enchaîner les matchs. S'il peut enchaîner 15, 20, 30 matchs, même si c'est vrai que 30, ça peut faire un peu beaucoup, mais s'il peut vraiment enchaîner les matchs, ça peut le mettre vraiment en confiance et prendre peut-être l'habitude aussi. Bah de stater un peu plus, d'avoir plus de duels devant le but et finalement de pouvoir les mettre au fond et que ce soit un peu plus récurrent. Mais c'est vrai que ouais, j'ai du mal quand même à être optimiste parce que bah, les défauts sont toujours là. Et par rapport au fait, par rapport à Mohamed Salah, bah, c'est vrai que Dembélé, le problème, c'est que ça fait partie aussi de ses qualités, c'est son insouciance. Et le fait qu'il ait cette insouciance-là fait que normalement, du coup, devant le but, c'est pas forcément quelqu'un qui va se mettre la pression. Si ça pouvait être un caractère différent, qui se met la pression, etc., du coup, il commence à en rater une ou deux, ça peut trotter dans les têtes, etc. Mais c'est vrai que Dembélé, il a l'air quand même très insouciant. Donc, on a du mal à se dire que ce gars a la pression devant le but. Donc, ouais, j'ai du mal à voir Dembélé passer un cap. Mais bon, on va quand même rester optimiste. Après, je suis d'accord aussi avec Kevzor sur le fait que ce n'est pas forcément ce qu'on attend de lui, qu'il mette 20 ou 30 buts par saison. Par contre, j'attends quand même de lui qu'il fasse un peu plus de passes D, qu'il fasse les bons choix au bon moment, qu'il porte un peu moins le ballon sur certaines phases et puis qu'il puisse servir les autres dans de bonnes conditions. Après, on a Mbappé pour stater, on a un Ramos ou un Kolo Muani pour stater aussi. Mais il y a des moments où des face-à-face, il doit les mettre. Face à Nice, s'il met son face-à-face, on peut sûrement gagner le match aussi. Donc, il y a des matchs comme ça qui peuvent basculer et il va falloir qu'il soit meilleur. Il a 26 ans, c'est un grand joueur. Donc, à un moment donné, il faut savoir porter ce poids-là dans les grands moments. Et malheureusement, c'est ça aussi le problème de Dembélé, c'est que les grands matchs, il n'y a pas beaucoup de références. Donc voilà, on l'attend cette saison et pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais ça reste le début.
Là où je rejoins Kevzor, c'est je crois que tant qu'il n'aura pas marqué son premier but, je pense qu'on risque d'avoir ce problème parce que je sens un mec qui est constamment en train de forcer. Et ça, même sa frappe où il y avait Ramos qui était tout seul, elle est complètement forcée. C'est un mec, on le connaît par exemple, l'année dernière, il a fini meilleur buteur de Liga. En fait, sa force, ça va être dans la dernière passe. Là, techniquement, le Dembélé que je connais et que j'ai vu en Liga...
Tu t'es trompé, Nix. Hein.
Comment ça?
Il finit pas meilleur buteur de Liga.
Si, l'année dernière, il... Dire. Hein?
Ousmane Dembélé?
L'année dernière, la saison dernière, il a plus de 17 passes.
Ah, mais t'as dit buteur.
Ah oui, passeur.
Ah, passeur, pardon. Oui, il a plus de 18 passes décisives en Espagne.
Mais il a raté 3-4 mois de compétition en plus.
En plus. Donc, ça veut dire le mec qui serait probablement passé à 25. Donc, sa force, elle est clairement dans la dernière passe. C'est un mec sur ses centres. Tu vois, par exemple, quand les joueurs essaient de se mettre sur leur bon pied à chaque fois, lui, dès que le ballon il arrive, il peut décaler en centre, pied gauche, pied droit, on s'en fout, il est millimétré. Mais là, j'ai l'impression qu'il force pour marquer des buts. Je l'ai déjà vu dans le match juste avant. Et j'ai l'impression que tant qu'il ne marquera pas ce but, bah, on aura un Dembélé qui veut montrer aux supporters, etc., que genre, il mérite de porter le numéro 10 et qu'il veut être décisif, etc. Alors, il faut bien qu'il comprenne qu'il peut être décisif par la passe et que c'est tout aussi important.
Après, c'est une question de déclic. Il y a quelque chose sur lequel je veux rebondir par rapport à ce que Réco a dit. C'est que concrètement, son insouciance en fait, à Dembélé, elle est surtout dans le dribble. Et devant le but, en fait, moi je pense que l'insouciance d'un Dembélé au jour d'aujourd'hui, de ce que je vois au PSG, c'est que dans le dribble, c'est vrai qu'il rate des choses, il crée des choses. Et quelqu'un en fait, d'insouciant pour moi, c'est qu'il ne réfléchira pas. C'est-à-dire qu'il va rater 10 dribbles, il va continuer à en faire 20 autres derrière, sans forcément se dire si je les rate, c'est pas grave. Ou si je les réussis, tant mieux. Mais devant le but, je te rejoins, Nix, je ne vois pas quelqu'un de décontracté. Tu sens qu'il y a une certaine crispation. Et c'est vrai que ce premier but. Permet toujours, voire même une première passe décisive, permet d'arriver devant le but un peu plus sereinement, avec moins de réflexion. Parce que de toute façon, quand tu joues sur un secteur offensif, que ce soit poste de numéro 9 ou ailier, les stats sont importantes. Qu'on le veuille ou non, les stats sont importantes dans ce football moderne. Et plus en fait, tu arriveras à enchaîner des matchs sans marquer, plus en fait, forcément, arriver dans les 20 derniers mètres, dans ta tête, ça va forcément cogiter, ça va être plus difficile. Donc moi, je vois même en équipe de France. Hein. En équipe de France, là, sur les deux derniers matchs, il a forcé 2-3 trucs. Il aurait dû marquer un ou deux buts. Et forcé de constater qu'aujourd'hui, c'est zéro pointé.
Après, attention à la concurrence aussi, parce qu'on parle d'enchaîner les matchs, des stats et tout. Mais c'est vrai que la concurrence, pour le coup, à Barcelone, à droite, je crois qu'il n'y avait pas grand monde. En équipe Rafinha. De France, Coman, ouais, voilà, Rafinha. Et franchement, bon, je ne parlerai pas de Rafinha, mais j'en ai déjà assez parlé pendant la Coupe du Monde. Il y a en équipe de France, Coman a du mal à stater aussi, même si défensivement il est très utile et même dans les dribbles et tout, il apporte quand même. Mais là, au Paris Saint-Germain, il y a Barcola qui vient d'arriver, il y a Asensio qui va revenir, qui peut jouer à droite. Donc il va y avoir beaucoup de concurrence, du turnover. Donc si il ne se remet pas en état de marche et qu'il ne recommence pas à stater, ça peut être compliqué pour lui. Même s'il arrive à enchaîner les matchs, il peut très vite se retrouver sur le banc.
Après, okay. Il y a une chose sur laquelle je veux rebondir vite fait, Nix, mais au jour d'aujourd'hui, en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que nos attaquants doivent partir de très loin et doivent, entre guillemets, faire des différences sur un plan individuel. Ce qui fait que peut-être qu'en zone de finition, tu as un déséquilibre sur le plan physique. Aujourd'hui, on sait qu'un Cavani faisait beaucoup d'efforts et avait beaucoup de problématiques sur sa finition. Et en fait, on peut me dire ce qu'on veut, mais au milieu de terrain, on n'a pas un joueur capable en fait de faire des différences et d'envoyer sur orbite un de nos attaquants qui aurait moins d'efforts à faire sur un plan individuel pour se créer des occasions. Donc, voilà, tu vois, il y a des choses qui me dépassent sur ça.
Ok, on avait une question d'Abdou, Lamino Abdou, qui est régulièrement dans les commentaires. Il nous a demandé, est-ce que vous pensez que Luis Enrique aura les pleins pouvoirs sur le long terme ou est-ce qu'il les perdra à la première déconvenue? On peut penser par exemple à une élimination en phase de poule. Est-ce que pour vous, après ça, est-ce qu'on va changer notre fusil d'épaule et qu'on va lui continuer à lui donner les pleins pouvoirs ou est-ce que ça va repartir? On ne peut pas lui faire confiance et donner des pouvoirs à quelqu'un d'autre. Vas-y, Reco.
Non, je pense que là, on est clairement... Il fera au moins 2 ans, peu importe les résultats. Bon, à part si c'est vraiment une catastrophe. Mais je pense que même cette année, si jamais on perd le titre, je pense qu'il repartira au moins pour une année. Je vois vraiment Luis Enrique faire au moins 2 ans. Et après, est-ce que si jamais on sort 2 fois en 8e ou quelque chose comme ça, il ne fasse pas de 3e saison? Franchement, je ne pense pas. Je pense que là, on est vraiment parti sur un nouveau cycle et qu'il y a une vraie volonté de construire quelque chose sur le long terme. Je pense qu'ils ont pu avoir l'exemple de Klopp et de Guardiola notamment, qui ont pris pas mal d'années avant de gagner cette Ligue des Champions et avant d'avoir une équipe vraiment destructrice. Donc, il va falloir du temps, c'est comme ça. Et tant qu'on ne donnera pas le temps à l'entraîneur, les joueurs qu'il faut, etc., on n'y arrivera pas. Donc, je pense qu'ils ont enfin compris ça et que s'ils veulent que les résultats suivent et qu'on gagne enfin cette Ligue des Champions, il va falloir être patient. Donc, ce ne serait pas se rendre service que de se séparer de Luis Enrique, peu importe les résultats, à part évidemment si c'est une catastrophe et que notamment les joueurs l'auraient lâché. Mais s'ils sont toujours dans le projet, s'ils sont tous soudés, tous ensemble, même si les résultats ne suivent pas sur 1 ou 2 saisons, pour moi, il faut continuer. Et je ne vois pas le PSG s'en séparer.
Je vais te donner la parole, Kevzor. Juste avant, Ricoba dit à Jérémy de faire moins de bruit dans la cuisine. Vas-y, Kevzor.
Fais moins de bruit dans la cuisine.
Donc, moi, pour ma part, je rejoins Reco et du moins, j'ose espérer personnellement qu'on va lui faire confiance au moins sur du moyen à long terme. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de compétences, c'est un coach à point. Je vois encore une fois hier quelqu'un qui n'est pas du tout satisfait de ce qu'on a mis en place sur son visage, même si en conférence de presse, il protège ses joueurs avant un match crucial en Ligue des Champions. Parce que ça ne reste que de la communication et on sait très bien comment fonctionne ce genre de coach qui protège énormément son groupe en conférence. Moi, je vois quand même sur sa deuxième mi-temps que son visage, il est énervé. Il est énervé et en plus de ça, par rapport à certaines absences, il a un manque de solutions sur certains secteurs qui nous ont été défaillants hier. Donc voilà, mais j'espère qu'on lui fera confiance. Moi, j'espère qu'on lui fera confiance, même si je ne suis pas forcément un grand fan de Luis de base. C'est un coach qui, on peut dire ce qu'on veut, est quelqu'un très pointilleux tactiquement, qui demande beaucoup d'efforts à ses joueurs, qui est très pointilleux aussi sur l'aspect professionnel de chacun des joueurs. Moi, j'insiste, on a fait quand même beaucoup de ménage dans ce club. On avait besoin de faire un gros ménage. C'est chose faite. J'ai l'impression que le président a pris un petit peu de recul aussi depuis la Coupe du Monde au Qatar. Et j'espère vraiment du fond du cœur qu'on va laisser travailler un coach. Et puis voilà, comme l'a dit Reco, au bout de 2-3 ans, si ça ne fonctionne pas, on bascule sur autre chose. Mais je ne veux surtout pas en fait, que l'été prochain, étant donné qu'il y a de grandes chances que Guardiola soit libre, qu'on fasse n'importe quoi pour de nouveau refaire un ménage et reconstruire quelque chose où tous les ans c'est la même chose en fait.
Ok. On est à quelques jours d'un match de Ligue des Champions face à Dortmund. On a perdu Marco Asensio. On a vu déjà la différence sur le match d'hier. Moi, je voulais vous demander quelle approche pour le prochain match de Ligue des Champions et quel 11 vu la blessure de Marco Asensio. Vas-y, Kevzor.
De toute façon, le 11, à une chose près, pour moi, on le connaît. Hein. Ce sera Marquinhos qui va remplacer Danilo, Ugarte qui remplacera Soler. Et je pense que la balance se fera entre un Ramos et un Colomani sur le poste offensif. Mais le 11, on le connaît. Tous ceux qui, pour le moment, pensent que Barcola va prendre la place de Dembélé sont utopistes. Tous ceux qui... C'est un jeune joueur, il a besoin de s'intégrer. Dembélé est un choix du coach. Dembélé est un joueur qui est très apprécié par le coach. J'espère aussi que certains vont se sortir un petit peu les doigts. Je pense notamment à Skriniar et à Hernandez qui jouent sur un fauteuil là, depuis 2 matchs. Hernandez, je ne trouve pas qu'il fasse un match catastrophique hier, mais je trouve que c'est très suffisant par rapport à ses qualités intrinsèques. Je trouve que Skriniar, à un moment donné, il va falloir qu'il s'enlève ses chaussures orthopédiques parce que c'est trop lent, il est un peu mou. Et tous ceux qui critiquaient en fait Marquinhos depuis X temps, je suis désolé les gars, mais quand l'équipe est équilibrée, ben Marquinhos c'est le patron de la défense. On a joué deux matchs avec Danilo et Skriniar en défense centrale. C'est un zéro, enfin c'est un point face au grand FC Lorient. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, Marquinhos fait preuve de beaucoup de sérieux, de beaucoup de sérénité dans notre défense. Je trouve qu'il a repris confiance en lui. Et ça aussi, ça me casse les couilles, ces trêves internationales où on a des joueurs internationaux qui jouent au fin fond du Chili ou de je ne sais trop où et qui ne peuvent pas être disponibles le vendredi soir. Donc voilà, je suis convaincu hier qu'avec, même sans Ugarte, je pense qu'avec un Marquinhos derrière, ça aurait été un tout autre match parce que défensivement, même si Lyon est une équipe quand même très intéressante où on a été un petit peu dans l'euphorie de cette rencontre avec beaucoup de transitions, on a été quand même beaucoup moins mis en difficulté par un seul joueur, là, Terence Monfils. Honnêtement, je suis désolé, c'est pas possible qu'un attaquant de Ligue 1 nous fasse autant mal, même si c'est un joueur qui a des qualités, hein, mais c'est pas possible. Et je suis convaincu à 100%, hein, même si je pourrais pas refaire le match et je ne suis pas Madame Irma, qu'avec un Marquinhos, ce match-là, tu gagnes.
Michael.
Bah oui, non, c'est sûr. Hein, on a été clairement en difficulté dans la gestion de la profondeur. Et donc avec un Marquinhos, ça aurait été totalement, totalement différent. Et c'est clair que ce match-là donne raison à la tendance qui montre bien que le retour de Marquinhos fait du bien au PSG, qu'il est de retour à très haut niveau et que ça va faire du bien toute la saison. Après, le retour de Nuno Mendes va faire du bien aussi, du coup, puisqu'on va pouvoir basculer avec une charnière Lucas-Marquinhos. Je pense que ça va être pas mal. Notamment parce qu'on joue haut et que derrière on se fait ouvrir trop facilement. Là, avec Lucas et Marquinhos, je pense que ce sera mieux aussi. On voit aussi Hakimi qui est très bien, qui participe beaucoup plus au jeu, qui est très offensif. Donc je pense qu'avec un Nuno à gauche, ça peut donner vraiment quelque chose de bien, un peu un football total. Après, il va falloir faire attention au déséquilibre. Mais avec des milieux de terrain comme Zaïre Emery et Ugarte, ça peut être intéressant au niveau des replis, etc., pour sauver un peu les fesses de tout le monde. Mais je pense que voilà, quand on aura toutes les cartouches, ça peut être mieux. Après, je suis d'accord avec Kevzor, la trêve internationale a fait du mal parce que voilà, on voit Marquinhos, Ugarte qui sont partis voyager très loin, etc. Après, c'est ça aussi la force d'un grand club, avoir le banc et les joueurs pour pouvoir tourner. Et quand je vois l'équipe alignée hier, pour moi, on doit faire mieux face à Nice, au Parc. Maintenant, bah, comme on est une nouvelle équipe, il y a pas mal d'automatismes à prendre aussi. Il y a des joueurs qui ont joué pour la première fois cette saison, je crois, comme Danilo en match officiel, Soler aussi, je crois. Donc voilà, c'est pas évident. Quand tu as un mec comme Ugarte qui manque au milieu, un mec comme Marquinhos qui manque derrière, bah, mine de rien, c'est très très important. Donc voilà, il va falloir que, avec le temps, on puisse mieux gérer cette après-trêve internationale. Maintenant pour Dortmund, oui, je suis totalement d'accord avec Kevzor. Pour moi, la seule différence, la seule interrogation, ça va être Ramos et Kolo Muani. Le milieu, il bougera pas, la défense non plus. Donc c'est à savoir qui va jouer. Personnellement, je pense que ça va être Kolo Muani parce que bah, déjà il a fait une très très bonne rentrée. Ensuite de ça, je pense que, bah, alors déjà il connaît bien Dortmund puisqu'il y a joué, il a joué un an ou deux en Allemagne, un an je crois.
Oh non.
Un an, ouais. Donc il connaît un peu Dortmund. Et puis surtout par rapport à la défense de Dortmund et à leurs faiblesses, je pense qu'un Kolo Muani sera bien plus intéressant face à Dortmund qui va laisser pas mal d'espace derrière, qui a des défenseurs très très lents. Et je pense qu'en profondeur, il va faire vraiment très mal et ses appels vont vraiment faire mal. Donc je pense que ce sera Kolo Muani qui sera préféré.
C'est l'heure de la minute tactique. Alors, on a une question de Adrien 48-85 qui nous dit comment le PSG fera-t-il pour pallier au probable manque au milieu de terrain cette saison? Alors, on pense peut-être à une blessure d'Ugarte ou quelque chose comme ça. Est-ce que ce serait mieux de faire monter Marquinhos? Est-ce que ce serait mieux de descendre Asensio en jouant avec deux milieux? Ou est-ce qu'il est nécessaire absolument de recruter quelqu'un en hiver? Et si oui, quel profil? Réco.
À recruter en hiver, oui, pour moi c'est obligatoire parce que je sais pas vous, mais moi hier quand j'ai vu Ugarte blessé, je me suis un peu fait caca culotte. On va pas se mentir, il est vraiment trop important au milieu. Donc pour moi cet hiver, c'est évident qu'il faut recruter un 6. voire même un 8, un créateur, même si bon, ça va être compliqué, on va pas se mentir. L'hiver, tu n'as pas forcément toutes les cartouches possibles, tous les joueurs à disposition. Donc, ça va être délicat. Mais ouais, pour moi, il manque quelqu'un. Après, je pense que pour combler une blessure d'Ugarte, clairement, le mieux, je pense que ce serait de monter Marquinhos, voilà, et de mettre Lucas Hernandez et Kimpembe derrière, ou Lucas Hernandez et Skriniar, peu importe. Mais je pense que le mieux, ce sera de faire monter Marquinhos, même si je ne suis pas forcément fan de ça. Mais c'est la seule cartouche que je vois la plus plausible, parce que Danilo en 6, on l'a vu l'année dernière, il est bien meilleur en DC. Donc voilà, et après, au milieu de terrain, je pense qu'on le voit tous, Vitinha n'a pas les épaules pour lead cette équipe, pour créer, pour prendre des risques. Il est beaucoup trop timide, beaucoup trop bridé. Il se met beaucoup trop la pression, je pense. Donc, il manque clairement un créateur. Et pour moi, la solution viendra d'Asensio ou de Kangin Lee à faire redescendre dans ce milieu-là en 8-10. J'ai cru comprendre que c'était peut-être la volonté de le faire avec Kangin Lee, mais je pense que Asensio, qui pourrait perdre sa place déjà de faux neuf, vu que tu as quand même Ramos et Kangin Lee et Colomwani, et qu'à droite tu as du monde aussi, eh ben, peut-être qu'Asensio serait une vraie solution dans ce milieu à 3 en jouant en pointe haute, ou alors Kangin Lee qui a un gros volume de jeu aussi, qui presse beaucoup, et ça peut être très intéressant. Mais pour moi, c'est clair qu'il va falloir changer de créateur très très vite.
Le temps de démute, vas-y, Kavzor.
Ouais, non, mais après, je suis d'accord avec Rico. Je suis d'accord avec Rico, même si pour moi, Vitinha, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, en fait. Je pense que pour le moment, il n'est pas encore prêt mentalement à prendre les clés de cet effectif. C'est un joueur qui aussi doit avoir encore mentalement, en fait, la saison compliquée qu'il a vécue et passée la saison dernière, où il a été beaucoup critiqué, où on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues, et où Neymar, Messi et même Mbappé n'ont pas forcément été très tendres avec lui. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est quand même, ça reste un jeune joueur, même s'il a 22 ou 23 ans. Tous les joueurs n'explosent pas comme certains à 16, 17, 18, 20. Donc voilà, pour moi, c'est un c'est un très bon super sub. Mais aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un avec beaucoup plus de personnalité pour avoir les épaules de tenir ce poste. Et bien sûr, de toute façon, moi, je l'avais dit, pour moi, si on ne recrutait pas au milieu de terrain, forcément, en fait, on allait être en difficulté sur ce secteur. Donc, je ne suis pas étonné du tout des prestations qu'on fournit au milieu de terrain. Je pense aussi qu'on met beaucoup de pression à Warren. Alors certes, c'est un joueur générationnel qui a énormément de qualité, mais aujourd'hui, ça fait pour moi 2 matchs qu'il est quand même relativement moyen, surtout sur le plan avec ballon. Même s'il récupère beaucoup de ballons, il met beaucoup d'intensité. Moi, contre Lyon, je n'étais pas satisfait de ce qu'il nous a proposé avec ballon. Je ne suis pas satisfait hier de ce qu'il nous a proposé avec ballon. Et il ne faut pas oublier, c'est un joueur qui est encore très très jeune. Donc voilà, il a besoin aussi d'avoir des joueurs autour de lui qui lui permettent aussi de souffler un petit peu, parce que c'est le seul joueur qui a démarré la quasi-totalité de tous les matchs titulaires avec Skriniar, si je ne me trompe pas. Et ouais, Donnarumma, bien sûr. Peut-être il y en a un ou deux que j'oublie, peut-être Hakimi, je pense aussi. Mais il faut, voilà, c'est un jeune joueur, il ne faut pas lui mettre trop de pression. Je pense qu'il est capable de la supporter, mais il a aussi besoin de souffler un petit peu. Je pense que tous les jeunes joueurs ont besoin de souffler. Et c'est important qu'on aille chercher ce joueur créatif au milieu de terrain. J'entends beaucoup de choses sur Unai ou quoi que ce soit, mais encore une fois, je pense qu'on a besoin, avec les départs officiels maintenant de Draxler et Verratti, de 2 top joueurs au milieu de terrain. Un sur un profil un peu plus défensif, et un offensif à la... Moi, j'irais plus loin, à la Bernardo Silva. Là, si t'avais recruté un Bernardo Silva cet été, je peux te garantir que l'équipe aurait un tout autre visage. Et je vais même aller plus loin dans ma démarche. En fait, il y en a beaucoup qui écoutent et qui prennent pas, en fait, la communication d'un coach. Je pense que dès le départ, tant que tout notre effectif n'était pas en fait dégraissé, on avait dit au coach qu'au milieu de terrain, ça aurait été sûrement compliqué cet été d'aller faire des joueurs. D'où le fait qu'il a insisté beaucoup, beaucoup, beaucoup sur « je suis satisfait des joueurs que j'ai au milieu de terrain ». Mercredi, en conférence de presse, il a même pas été capable de citer tous ces milieux de terrain qui étaient présents. Il a un petit peu bégayé. Donc, chose qui est quand même hyper importante, qui est Enrique est quelqu'un de très bon en com, et je suis convaincu qu'il n'est pas satisfait de son milieu de terrain. D'où le fait que ça revienne déjà au bout de 3 matchs sur le tapis qu'il veuille un milieu de terrain. Il est conscient que...
Tu vas trop vite, Kevzor, c'est un des sujets d'après.
mais voilà, donc j'insiste, pour moi, il faut absolument recruter quelqu'un. Et pour compenser, je pense, comme l'a dit Rico, Marquinhos au milieu de terrain sera le profil type... pour compenser un Ugarte, à partir où on sait que tu as Hernandez et Kimpembe de disponibles aussi. Parce que c'est pas possible de jouer avec Skriniar et Danilo titulaires sur le même match.
Ok, on a une autre question de Gloubilouba, j'espère que je prononce bien. Il nous demande qu'attendre du retour de Kipembe. Et il a noté aussi qu'il était souvent titulaire dans les matchs perdus, qu'on a un nombre de défaites records avec lui sur le terrain et qu'il fait des bourdes tout le temps. Je confirme, c'est l'avis de la personne qui nous a posé la question, c'est pas le mien. Qu'est-ce que vous pensez de ça et Kevzor, je te laisse répondre.
Et moi, je suis un grand fan de Kimpembe. J'ai fait un thread sur Kimpembe. J'ai fait beaucoup de choses sur Kimpembe. Moi, je le défends énormément parce que, alors certes, on retient beaucoup en fait le mauvais de chaque joueur, les erreurs individuelles quand tu es gardien de but, quand tu es défenseur, que tu fais une erreur. Bien entendu, ça te coûte souvent un point. Mais on oublie souvent aussi que chaque attaquant, quand il a un face-à-face raté, c'est un point aussi. Donc, faut pas oublier en fait tous les facteurs qui pour moi sont importants. Kimpembe est pour moi notre meilleur défenseur depuis 2 ou 3 ans. Et de très loin, en sachant que Marquinhos avait quand même vachement régressé dernièrement. Avant sa blessure, c'est largement notre meilleur défenseur. Je trouve qu'il a énormément progressé sur ses manques de concentration ou sur ses sauts de concentration qu'il faisait au préalable ou qui lui ont coûté cher, notamment contre Manchester. Mais tu vois, je vais prendre cet exemple. Manchester, tout le monde retient qu'une chose, c'est la main de Kimpembe à la 95e. Mais les gens, ils oublient la boulette de Buffon et celle de Kerrer auparavant parce qu'en fait, on ne retient que la finalité de la chose. Kimpembe, quand on fait Final 8, aux côtés de Thiago Silva, c'est quasiment notre meilleur défenseur. Il est au-dessus, mais de très très loin. Au match retour contre Dortmund, il attrape Haaland par le col, et il l'éteint. Kimpembe, dans les grands matchs, ça a quand même été toujours plus ou moins pour moi une valeur sûre. Alors même s'il a fait des erreurs, tous les défenseurs font des erreurs. C'est un joueur en plus qui aime le maillot, qui mouille le maillot et qui a énormément progressé. J'insiste, je ne suis pas du tout un fan de Didier Deschamps. Qui est un entraîneur très défensif et très pragmatique, mais avant la Coupe du Monde, quand l'équipe de France est scandaleuse sur la Ligue des Nations, où on est à 2 doigts de se faire descendre, il met Kimpembe titulaire, capitaine à la place d'un Hernandez. Donc voilà, je le redis, Kimpembe a des défauts, mais Kimpembe a énormément progressé. Moi, ce qui m'inquiète le plus sur Kimpembe, c'est son retour. Voilà, le talon d'Achille est une grosse blessure. Et c'est très très difficile de revenir en fait sur des reprises d'appui très rapidement. En fait, je pense que ça va mettre du temps. On a vu aussi qu'il a pris énormément en masse musculaire, donc certains le traitent de gros. C'est pas du tout le cas. Il a énormément travaillé physiquement, donc voilà. Mais moi, je suis un grand partisan d'un Kimpembe qui reviendra et qui sera capable de concurrencer beaucoup de joueurs s'il revient à son niveau, clairement.
Rico et toi?
Ah, Kimpembe, c'est un dossier épineux, hein. C'est un joueur qu'on aime tous, mais c'est compliqué. Depuis un petit moment, là, il a du mal. Il enchaîne aussi les blessures, les matchs qu'il a pu produire, c'est pas forcément bon, tant la mentalité, tant ses défauts qu'il a gommés à certains moments, mais qui reviennent. Le brassard de capitaine, ça a été compliqué pour lui aussi. À chaque fois qu'il l'a porté, ça a été des matchs scandaleux. Des actions des fois qui montrent qu'il est plus là, genre la blessure qu'il a à un moment donné là, qui se blesse en venant faire un tacle au milieu de terrain contre Lille, je crois, complètement ridicule. Voilà, c'est tu vois qu'il a eu du mal ces derniers temps dans la gestion de ses émotions. Maintenant, il a eu une grosse pause mine de rien avec cette blessure qui peut-être du coup va lui faire du bien. Il y a de la concurrence aussi qui arrive, ça c'est important parce que quand on a su tirer le meilleur de Kimpembe, c'est quand il y avait Thiago Silva, Marquinhos et d'autres. Donc, c'est là où on a pu avoir un gros Kimpembe concentré qui avait envie de gagner sa place et de la garder. Donc, je pense que là, cette grosse pause, cette blessure, ça lui a permis de couper, de se vider un peu la tête, de revenir le mieux possible. Et le fait d'avoir de la concurrence derrière, il faut rappeler quand même qui est Kimpembe. C'est un joueur qui est sorti du centre, qui s'est imposé dans l'équipe. Mentalement, c'est quelqu'un qui est quand même très fort. Dans les grands matchs, comme l'a dit Kevzor, il a toujours été très bon parce que c'est vrai qu'on a tendance à pointer du doigt ses erreurs, mais il a fait énormément de grands matchs avec le Paris Saint-Germain, avec un niveau vraiment très très haut. Il y a des duels qu'il a suggérés, et notamment face à Haaland, mais même à d'autres, où il a vraiment été très bon. Donc, va falloir voir comment il revient, si mentalement il est là, si mentalement il s'est bien remis, et comment il arrive à gérer cette concurrence. Parce qu'il va y avoir une rude concurrence et devoir gagner sa place face à des mecs comme Lucas Hernandez, Skriniar, Marquinhos, ça va pas être évident. Donc ça va être ça la clé, à voir comment il revient physiquement, mentalement et s'il arrive à regagner sa place. Il va avoir des opportunités parce que ça va tourner. Par exemple, un retour de trêve international, Lucas Hernandez sera ménagé. Donc, Kimpembe peut prendre la place de défenseur central gauche. On sait que Lucas aussi est un peu fragile, donc on va le faire tourner un peu plus. Il peut être blessé aussi. Donc, Kimpembe aura du temps de jeu et ça va être à lui de montrer qu'il est capable de revenir au top niveau et qu'il peut apporter à cette équipe et qu'il a enfin gommé certains de ses petits défauts qui restent quand même par moment. Ça va être compliqué, mais Kimpembe, ça reste un soldat qui aime le club. Donc, rien n'est impossible avec lui, même si ce n'est pas évident de voir qu'il peut encore s'imposer dans cette équipe et que peut-être une page s'est tournée. Mais moi, j'ai quand même envie d'y croire.
Ok. On va parler de ce dont Kevzor nous a un peu grillé. Mais quand Luis Enrique il a dit « si je pense qu'il me manque quelque chose au milieu après le départ de Verratti », il répond « non, je pense que nous avons une équipe très équilibrée, notamment au milieu de terrain. Nous y avons beaucoup d'options qui sont très bonnes ». Comme a dit Kevzor, il n'a pas réussi à nommer tous les milieux de terrain en question. Ricoma, je vais te poser la question. Est-ce que tu penses que c'est du bluff ou est-ce qu'il est vraiment satisfait? En sachant que Luis Enrique, il y a un fait qui me pousse à douter de sa sincérité sur cette déclaration, parce qu'on pourrait dire que c'est de la com, etc. Mais on sait aussi qu'Enrique, c'est un coach qui aime bien développer un football où tu vas avoir besoin de joueurs de système. Et je trouve que dans les joueurs qu'il a, il y a pas mal de joueurs de système, en fait. Il n'y a pas des grands joueurs, mais il y a des joueurs qui, normalement, quand tu vas leur dire « fais ça », ils vont le faire. Contrairement à peut-être certains gros joueurs qui, on va prendre forcément l'exemple de Verratti. Verratti qui est largement au-dessus de tous les milieux de terrain qu'on a actuellement. Mais je pense que Luis Enrique, il se dit que Verratti ne va pas écouter tactiquement ce qu'il dit. Parce que Verratti, il y a le côté créatif, il y a le côté artiste, etc., qui ne rentre pas dans le cadre de Luis Enrique. Et on peut se dire que niveau talent, il n'a pas ce qu'il veut, mais on a vu qu'avec l'Espagne, il arrive à faire des choses plus ou moins très bonnes avec des joueurs qui ne sont pas exceptionnels. Donc peut-être qu'il veut un côté collectif et il se dit qu'avec les joueurs qu'il a, bah, ça peut donner quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rico.
Après, au milieu, avec l'équipe d'Espagne, pour le coup, il a quand même un beau vivier. Alors je pense qu'il est content des joueurs. Alors déjà bon, c'est 100% de la com, on va pas se mentir. Si nous dans notre canapé à notre petit niveau on le voit qu'il manque du monde au milieu de terrain, que ce soit la quantité ou la qualité, bon, je pense que Luis Enrique l'a remarqué. Après, je pense qu'il est quand même satisfait des joueurs qu'il a, dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est des joueurs déjà qui ont quand même un minimum de talent, qui vont écouter les consignes, il va pouvoir mettre en place ce qu'il veut, etc. C'est des joueurs, un Vitinha, clairement, c'est clairement un joueur de système. L'année dernière, il était perdu dans ce néant. Il y a des joueurs qui arrivent à s'en sortir, mais lui, c'est assez compliqué. Donc non, je pense qu'il est quand même content, on va dire, des profils qu'il a à sa disposition. Mais clairement, c'est de la com. Et c'est évident qu'il manque de la quantité et de la qualité dans ce milieu de terrain. Et en plus de ça, comme on l'a dit, si un Ugarte se blesse, on va être vraiment en difficulté. De toute façon, on l'a vu hier. Sans Ugarte, la première mi-temps, ça a été très compliqué. Les 60 premières minutes, ça a été très délicat au milieu. On s'est fait bousiller par Nice. Donc, imagine, contre les plus grosses équipes, on va clairement prendre le bouillon. Donc, non, pour moi, c'est 100% de la com. Et de toute manière, on l'a dit depuis le début, qu'il fallait déjà de base un ou deux milieux de terrain en plus. Là, en plus, Verratti part. Je peux pas me dire qu'il est content de ce milieu de terrain-là. En plus, c'est révélateur, comme on avait parlé Kevzor tout à l'heure. Il n'est même pas capable de tous les citer. Il y a des joueurs comme Nchirendour qui ne jouent pas, qui ne rentrent même pas quasiment. Donc, tu ne peux pas me dire qu'il est satisfait de ça. Il manque au moins deux joueurs, je dirais. Comme l'a dit Kevzor, un plus défensif et un peu plus offensif. Donc, voilà, ça va être le vrai problème de cette saison. Et malheureusement, on va traîner ça toute l'année, je pense. Et ça va nous coûter des points.
Kevzor, je te laisse continuer ce que tu avais
compris. À partir du moment, déjà, concrètement, que quand ton coach cite comme remplaçant Nchirendour et un Mbappé en bégayant, je vais pas te mentir que c'est quand même relativement inquiétant par rapport à... En fait, quand tu vois l'équipe que tu as en défense, quand tu vois l'équipe que tu as en attaque et quand tu vois tes remplaçants au milieu de terrain, je suis désolé. Tu peux pas te permettre d'avoir sur le banc au milieu de terrain, au vu de la qualité de notre effectif offensivement et défensivement, du Soler, du Fabian Ruiz, du Nchirendour, du Ethan Mbappé, parce que je veux bien que certains aient vu beaucoup de choses dans Ethan Mbappé, etc. Moi, pour le moment, je vais pas vous mentir, Ndour, moi, j'ai rien vu. Mbappé, j'ai rien vu. Et je parle de ça face à des équipes qui sont japonaises ou coréennes, ou je ne sais pas exactement si je me trompe. Mais voilà, concrètement, faut être objectif. Aujourd'hui, on a une ligne d'attaque qui est très, très, très intéressante, que ce soit sur le plan individuel, sur le plan collectif, sur le plan des profils. On a une ligne défense, c'est pareil, avec le retour de Mukiele, de Nuno Mendes et de Kimpembe. Vous n'imaginez pas en fait comment tu as un casse-tête en tant que coach. Mais au milieu de terrain, en fait, tu sais très bien qu'est-ce que tu vas mettre. Parce que tu n'as aucune possibilité de rechange. Fabián Ruiz, il a sûrement été très bon avec l'Espagne. Mais contre qui, les gars? Contre la Géorgie. Waouh, on se régale face à la Géorgie. Carlos Soler, il est catastrophique au PSG depuis son arrivée. Force est de constater, c'est un constat. Apparemment, il n'était pas loin de partir au Qatar. Mais j'aurais bien au Qatar ou en Arabie Saoudite. Mais malheureusement, il n'est pas adapté en fait à un profil de Ligue 1. Carlos Soler, c'est un bon joueur de Liga dans un championnat plutôt ouvert où techniquement, tu as de la place pour jouer, tu peux te régaler. Mais il n'est pas fait pour jouer en Ligue 1. En Ligue 1, il n'a pas une seule seconde pour jouer, concrètement. Cher N'Dour, il a 18 ans, il joue dans l'équipe B du Benfica et on nous vend ça comme un crack. S'il explose, tant mieux. Mais moi, j'attends rien de Cher N'Dour. Étant Mbappé, les gars, j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là parce que c'est un dossier que je ne maîtrise pas et je ne suis pas convaincu que pour le moment il soit pas dans le groupe par rapport à certaines choses. Mais bon, bref, encore une fois, je rentre pas dans ce dossier-là. C'est trop faible au milieu de terrain, c'est trop faible. Mais je reste convaincu d'une chose, c'est qu'on va devoir faire comme ça avec ce milieu de terrain cette saison. Et que maintenant, on n'a plus que le milieu de terrain à travailler. Donc, tu as un an pour commencer à travailler en amont des dossiers très compliqués à faire, qui sont et onéreux et difficiles via des agents, via des clubs qui ne veulent pas vendre. Et là, en fait, on sera tranquille pour plusieurs saisons. Là, tu vas me chercher deux top joueurs du Barella, du Bernardo, et je vous garantis que je vais danser la Macarena à poil devant le Parc des Princes, concrètement. Et là, tu es solide. C'est ce qui nous manque, concrètement. Donc, voilà.
Un peu moins de 9 millions d'euros pour Ruaan Draxler, vendu à Al Ahly au Qatar. ça me fait rire parce que, en fait, on aurait pu faire ça depuis très longtemps.
Grave.
J'ai l'impression que le Qatar s'est dit, si on fait ça, on va se faire sanctionner. Depuis le début, ils se disent, vas-y, on va pas faire ça. Et après, quand ils ont vu que l'Arabie Saoudite et Chelsea, notamment, qui a des actionnaires saoudiens, ne se gênent pas. Ah, ils ont dit, bah, si vous voulez jouer à ce jeu-là, nous, on peut être grave plus fort à ce jeu-là. Et vu que tu ne les as pas sanctionnés, eux, bonne chose pour nous sanctionner. Alors, ma question, Kevzor, c'est qu'est-ce que tu en penses des deals avec le Qatar et est-ce qu'on aurait dû les faire avant?
Bon, en fait, j'en ai rien à foutre, je vais pas te mentir. En fait, on est tout le temps trop gentil. Concrètement, en fait, ça fait des années que Nasser veut faire le gentil avec tous les clubs, ne veut aucun problème. On essaie d'être, bon, on n'est pas forcément dans les règles, sur certains points, il n'y a pas de souci, mais on essaie d'être le plus gentil, de caresser tout le monde dans le sens du poil. Il y a des deals qui sont Juventus-Barça, il y a eu plein de deals pourris, il y a des deals de partout. Et concrètement, faut arrêter de se voiler la face. On vend à qui on veut, au prix qu'on veut. Et ça, on aurait dû le faire depuis bien longtemps. Parce que dans tous les cas, même quand on fait les choses correctement, on est critiqué. Donc, faut arrêter en fait de faire la fine bouche. Moi, je suis bien content qu'on l'ait fait. Et encore une fois, je pense que le deal avec Verratti, des clubs en Arabie Saoudite ont proposé le même tarif. Draxler, bon, je pense que voilà, on est bien content de l'avoir fait partir à ce tarif-là. Mais c'est pareil, Abdou Diallo, dans certains qui disent ouais, c'est une escroquerie. C'est pas une escroquerie. S'il n'a pas toutes ses blessures, Abdou Diallo, c'est quand même un bon défenseur. À Dortmund, sur ses 6 premiers mois, il voulait lever sa clause qui était de 25 millions, donc plus cher que ce que l'on. Et après, il y a eu quelques pépins physiques parce qu'on sait que Diallo voilà, a quelques soucis physiques. Moi, honnêtement, je vais pas te mentir. Hein. Même si on aurait vendu Verratti à 150 millions d'euros, qui aujourd'hui aurait pu dire quelque chose? Parce que Chelsea, ils ont dégraissé leur effectif en étant encore avec 36 joueurs professionnels. Ils ont tout balancé là-bas et personne ne dit rien. Il n'y a que le grand méchant PSG en fait, qui est tout le temps dans l'œil du cyclone.
Et toi, Rico?
Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que je trouve aussi qu'il y a une vraie image de Nasser qui est vraiment lisse avec tout le monde et qui n'a pas envie d'avoir mauvaise réputation, etc. Après, on sait que c'est un peu délicat pour lui aussi parce qu'il occupe des postes très très importants un peu partout, que chaque année, il a un nouveau poste encore plus important dans une autre organisation. Enfin, c'est assez ouf tous les postes qu'il occupe. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Mais c'est vrai que dans tous les cas, on vend à qui on veut, quand on veut, à n'importe quel prix. Enfin, et c'est vrai qu'on aurait pu le faire avant. Bon, maintenant, on l'a fait maintenant, tant mieux. C'est vrai que c'est quand même un peu plus une escroquerie Draxler à 20 millions que Diallo à 10 ou à 15. Je ne sais plus si c'était 10 ou 15, mais il me semble que c'est ça. Donc, et puis après, je vois des commentaires, Draxler aurait sa place dans l'effectif actuel. On peut le penser, mais les gars, faut pas oublier le Draxler des dernières années au PSG. Là, il est parti en prêt l'année dernière au Benfica, il s'est pas imposé. C'est pas comme si c'était l'effectif de Manchester City. À chaque fois qu'il est rentré, il n'a pas été bon. Donc, à un moment donné, Luis Enrique, là, depuis le début qu'il est arrivé, il le voit à l'entraînement tous les jours. Donc, je pense que si il avait décelé un minimum de potentiel et qu'il aurait pu penser qu'il aurait pu apporter quelque chose, on l'aurait gardé. On l'aurait gardé. Comme on a dit tout à l'heure, Luis Enrique n'est certainement pas satisfait du milieu de terrain qu'il a. Et il se serait pas privé d'un Draxler s'il avait été bon aux entraînements, etc. Donc pour moi, non, il n'a pas sa place dans
C'est plus un joueur
l'effectif
de
actuel.
football.
Voilà, c'est ça. Puis même, il a plus envie, ça se voit. Donc non. Maintenant, bah, tant mieux pour nous. Il fallait le faire et je pense qu'il faut continuer à le faire. Pareil pour Kurzawa, pour Soler, etc. Comme l'a dit Kev, il y a des clubs qui se gênent pas, que ce soit la Juve, le Barça, Chelsea. Chelsea qui nous fait des contrats jusqu'en 2032. On n'a jamais vu ça. Donc à un moment donné, il ne faut pas se gêner. Tant qu'on respecte on va dire les règles, on peut vendre à qui on veut à n'importe quel prix. Et puis c'est tout. Donc c'est une très bonne chose. Récupérer 20 millions sur Draxler, c'est inespéré, surtout qu'il lui restait quoi, un an de contrat, je crois.
C'est 9.
Donc voilà. 9 millions, on l'a vendu?
Ouais.
Non, Draxler, c'est plus de 20 millions, hein,
Non,
Nixon.
c'est 20 millions Draxler.
Non, c'était l'information de base qui était sortie. Et y a pas mal de gens qui ont dit que c'est beaucoup moins que ça.
Non, non,
Ah
non.
bon?
Moi, j'ai pas vu ça. Hein. Moi, je
Bah,
pense qu'on est à...
c'est Abdella Boulma qui nous avait dit ça. Il avait dit que c'était beaucoup moins que 20 millions. Après, je sais pas. Bon,
Ok, bref, peu importe.
on va calculer tout ça, juste pour conclure ce sujet. Bon, pour faire un petit récap de ce qui s'est passé, on a vendu Diallo 15 millions, Neymar 110 avec les bonus, Verratti 40, Icardi 10, Shadai 15 millions, Paredes 2 millions, Wijnaldum 8 millions, Draxler 9, voire 20, Dina Ebimbe 6,5 millions, Renato 1 million le prix du prêt, Gassama 1 million. On a gagné 8 millions sur le pourcentage de la vente de Diaby à Aston Villa et 6,5 millions sur la vente de Nkunku à Chelsea.
Quoi?
Ce qui fait un total de 232 millions de ventes sur cet exercice, parce que comptablement parlant, toutes les ventes sont comptabilisées cash sur l'exercice actuel du Paris Saint-Germain, mais les achats, ils sont étalés sur la durée du contrat. Donc ça veut dire que là, on a encaissé 232 millions sur cet exercice, mais en termes d'achats, on n'a que 130 millions d'amortissement, il y a dont 61 millions de la saison du mercato qui vient de passer. Parce que tous ceux qu'on a achetés cet été, qu'on étale sur leur contrat, bah, ça fait comme si tu as dépensé que 61 millions d'euros. Donc, c'est l'une des premières fois que le PSG réalise une plus-value. Et là, on est à une plus-value de 150 millions d'euros sur cet exercice. On peut dire que pour une fois, on a plutôt bien travaillé. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais Verratti, c'est plus 50 millions que 40, Nixon.
Je sais pas, j'ai pris la
Ouais,
fourchette
attention,
basse.
à quelques millions près.
Ouais.
Moi, j'avais fait le calcul aussi. Je crois qu'on était à quasi 250 millions de ventes. De toute façon, à quelques millions près. C'est comme tu dis, c'est la première fois qu'on fait un exercice qui comptablement est cohérent. C'est la première fois qu'on vend et qu'on dégraisse après à cette échelle-là. Donc concrètement, on est plutôt pas mal. On est même très bien. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux. C'est inespéré même d'avoir vendu autant de joueurs. Et comme le dit Nick, en fait, en dehors de l'aspect financier, de l'argent qu'on a récupéré, n'oublions pas les salaires qu'on a économisés. Parce que sur les joueurs qu'on a laissés partir libres aussi, on a un salaire à quasiment 50 briques pour Messi. Ramos qui est parti avec un salaire de 12 à 15 millions d'euros. Neymar qui était un salaire qui était à peu près à 35 millions d'euros. Wijnaldum, très gros salaire. Icardi, très gros salaire. Paredes, très gros salaire. Parce que tu n'as pas cité Icardi dans tes ventes. Hein.
Si.
T'es sûr?
Ouais, 10 millions, Icardi.
Ok. Donc Paredes, très gros salaire. Wijnaldum, très gros salaire. Draxler, très gros salaire. Verratti, très gros salaire. En fait, en sachant que le fair play financier a été modifié cette saison, ça, c'est les gens l'oublient beaucoup. Mais aujourd'hui, le mode de fonctionnement du fair play financier était basé sur le salaire en brut sur tous les clubs. Et vu que en fait, l'aspect net et brut en France était extrêmement désavantageux pour les clubs français, à partir de cette année, le fair play financier ne prendra que le net. C'est-à-dire que si on donnait 150 millions à Mbappé brut et qu'il en touchait 70, j'extrapole là bien sûr, aujourd'hui, on sera basé uniquement que sur les 70 millions qu'on lui donne, alors que l'année dernière, c'était sur les 150. Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, va nous permettre d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large sur beaucoup de choses, en ayant dégraissé tout ça. C'est hyper important. Si aujourd'hui, déjà, après, tout ne peut pas être parfait dans un mercato où tu reconstruis quasiment une base de A à Z. Je suis tombé sur une vidéo du fameux match PSG-Chelsea quand on élimine le Chelsea. On n'a plus aucun joueur de cet effectif en ayant fait partir Verratti. Plus aucun. À part Marquinhos.
Ouais, le capitaine. Bah écoutez les gars, on va finir ce podcast en
Moi, j'aimerais
répondant.
faire un petit point sur quelque chose qui me gêne là, un petit peu, Nyx.
Vas-y, vas-y.
Moi, c'est Donnarumma.
Ah oui.
Donnarumma, j'en entends trop leur. Franchement, les gens, en fait, j'ai l'impression que vous suivez pas vraiment Navas depuis des années. Je suis désolé, les gars, mais quand on me dit que Donnarumma a un jeu au pied catastrophique et qu'on me vend Navas comme Neuer Prime ou quoi que ce soit, je rappelle quand même que Navas, son jeu au pied est pas très bon. Hein. Plusieurs fois, c'était dégagement en touche. Le Navas d'il y a 3-4 ans n'est pas le Navas d'aujourd'hui parce que les gens aussi retiennent son passage à Nottingham Forest où il a été élu deux fois homme du match sur les deux premiers matchs. Les 15 matchs suivants à Nottingham Forest, énormément d'erreurs. Il a été très critiqué. Là dernièrement, Navas, il a de gros problèmes au dos par rapport à son âge. Il est souvent blessé, même sans jouer. Navas est un gardien qui a pris beaucoup de poids dernièrement. En sélection internationale, là, sur les deux matchs qu'il a fait dernièrement et dans son dernier match, il fait deux énormes boulettes. Alors que là, hier, encore une fois, j'en vois certains, ça me sort par la tête. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Donnarumma, mis à part son erreur de relance en début de match qui n'a aucune conséquence, il fait trois très grosses parades à des moments clés du match qui nous permettent de nous maintenir dans le match. Donc, à un moment donné, je veux bien qu'on critique Donnarumma par rapport à son jeu au pied qui n'est pas compatible avec ce projet de jeu, ça je l'entends, mais qu'on vienne en fait imputer chaque but de cet effectif à Donnarumma alors que concrètement, notre défense est catastrophique hier et a même pas forcément été exceptionnelle contre Lyon et il nous a forcément sauvés. Moi, j'aimerais qu'on soit juste en fait. Je vous assure que quand je vois que des mecs veulent Navas pour son jeu au pied, alors que... Il a peut-être des chaussures orthopédiques avec des semelles de 3 cm de moins, c'est tout. Hein. Faut être honnête et objectif. Aujourd'hui, Navas, c'est très compliqué. Il a plus le même âge, il fait plus le même poids, il est plus capable d'enchaîner autant de matchs. Donc voilà.
Ouais, mais c'est une question d'image aussi. Hein. Regarde, c'est comme les gens qui veulent Draxler dans cet effectif. Ils se souviennent que du Draxler de la première saison et du but qu'il a mis face à Rennes. Et ils oublient tout ce qu'il a pu faire après, le niveau qu'il a aujourd'hui, etc. C'est pareil pour Navas et c'est pareil pour Didio qui va traîner ses boulettes et le match face au Real et les quelques boulettes qu'il a pu faire avant. Et du coup, bah, ce sera jamais un gardien rassurant pour eux. Il sera toujours nul, il sera toujours fautif, etc. Malheureusement,
Ils
c'est
arrivent
ça.
contre Lyon à retenir en fait du négatif alors que le mec te fait quand même sur sa ligne des masters, il fait des parades que très 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 peu de gardiens sont capables de faire parce que contre le Real Madrid, moi je vais juste faire une petite précision à 0-0 hein, quand Benzema enroule son ballon que Donnarumma la touche et qu'elle effleure derrière le poteau, moi je ne connais aucun gardien capable de faire cette parade parce que si t'es mené 0-1 au Bernabéu, ça aurait été mérité parce que par rapport à sa taille, Navas n'aurait pas été capable de sortir ce ballon au vu de la détente que Donnarumma fait sur cet arrêt. Donc il faut aussi retenir les bons côtés parce que si on retient que les mauvais côtés, concrètement, je suis désolé, on peut retenir beaucoup de mauvaises choses de tous les grands joueurs du football. Aujourd'hui, on ne retient pas que de Zidane qui l'a mis un coup de tête en finale de son dernier match en sélection internationale. On retient sa carrière. Donnarumma est encore un jeune gardien qui a beaucoup de choses à travailler. On vient aussi de changer de coach de gardien, à voir si ce coach est capable de faire passer un step à notre gardien.
Ouais, je suis d'accord, il y a sûrement que Courtois qui pouvait l'avoir, je pense, celle-là par rapport à
Ouais,
sa taille et sa
franchement.
détente. Et même celle qui sort face à Lyon à ras du poteau, là où il va la chercher tout en bas, enfin, à un moment donné.
Ok, les gars.
Nix, Ouais.
On va terminer ce podcast avec 8 questions, puisque j'en ai noté 8 dans les commentaires des gens aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a un qui était très impatient, il n'arrêtait pas de répéter sa question. Mais c'est à la fin du podcast qu'on traite les questions, les gars, donc un peu doucement. Rekoba, je t'en donne une, après Kevzor, je t'en donnerai une autre. Il y a Wilba Rekoba qui dit « Aussi longtemps que Kylian sera au PSG, tous les 9 qui viendront au PSG auront du mal à exprimer leur talent. Ramos n'a pratiquement touché aucune balle. »
Pour moi, c'est une question de compatibilité, de personnalité. Cristiano Ronaldo au Real Madrid n'a pas empêché un Karim Benzema d'être monstrueux. Simplement, il se tâtait un peu moins. Il était plus au service du collectif et de Ronaldo. Donc, c'est plus une question de compatibilité, je pense. Un attaquant qui tourne bien avec Mbappé statera un petit peu moins, mais statera et permettra aussi au collectif de briller, à Mbappé de briller. Je pense qu'un Kolo Muani, dans cette mesure-là, peut être peut-être plus, peut mieux s'entendre avec un Mbappé. Après, Ramos, il va falloir qu'il s'adapte petit à petit, qu'il trouve des automatismes aussi. Mais pour moi, c'est simplement une question de personnalité et de compatibilité. Si tu te, comment dire, si tu n'arrives pas à t'imposer, si tu n'arrives pas à te, comment dire, si tu es un peu bridé par un Kylian Mbappé, bah, c'est que tu n'arrives pas à t'imposer dans un PSG, tu n'as pas la stature pour t'imposer dans un grand club comme le PSG. Donc, on verra si Ramos a cette capacité-là.
Kevzor, il y a Kevin Rowe qui nous pose une question de message. Il nous dit le problème du PSG, c'est de ne pas jouer avec un vrai neuf. Et ensuite, il rajoute, Ramos, c'est un pivot qui a besoin de centre. Regarde la passe pour Dembélé, il lui donne au millimètre, c'est typique d'un pivot.
Bon, après, on n'est pas capable de jouer avec un numéro 9. On a joué avec Cavani, on a joué avec Ibra, donc pas convaincu de qu'on n'en soit pas capable. Maintenant, c'est juste qu'on s'est habitué, en fait, dernièrement, avec des projets de jeu qui n'étaient pas du tout compatibles à ce qu'on était capable de mettre en place. J'insiste et je rappelle, notre coach est arrivé le 12 juillet, en sachant que les internationaux sont arrivés le 19 juillet. Ça ne fait même pas 2 mois qu'on travaille ensemble. Kolo Muani est arrivé en fin de mercato, Ramos est arrivé en fin de mercato. Donc il va falloir aussi que certains automatismes soient capables de se créer, que le coach soit capable aussi d'imposer certains lancements de jeu et typologies dans le jeu qu'on n'a plus l'habitude d'avoir. Donc c'est pour ça, Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc il va falloir aussi un petit peu de temps, il va falloir qu'on soit patient. Moi-même, hier soir, j'étais sûrement un petit peu énervé sur le débrief, et j'étais un petit peu impatient par rapport à ce qu'on a vu, mais il faut que tout le monde soit capable de mettre un peu d'eau dans son vin. Il va falloir que Mbappé se réhabitue à jouer avec un numéro 9, chose qu'il a déjà eu fait en équipe de France avec un profil à la Giroud. Donc voilà, tout le monde en est capable. C'est juste que c'est au coach de trouver les solutions pour que certains automatismes et certains lancements de jeu soient faits de manière beaucoup plus automatique.
Ok, Rekoba, il y a Buzz qui nous dit « Est-ce que Luis Enrique doit changer sa façon de jouer au vu de nos milieux ?» C'est un truc qui revient assez régulièrement dans une équipe. C'est quand il te manque des joueurs au niveau qualité-quantité à un poste, c'est de réduire ce poste et renforcer un autre secteur du jeu, là où tu as de la qualité. On peut notamment penser à un 3-5-2 où tu aurais juste besoin d'avoir 2 bons milieux plutôt qu'en avoir 3, chose qu'on a du mal à avoir. Donc, je te laisse répondre.
Non, mais je pense que c'est même plus au vu de nos milieux, c'est au vu de nos forces et nos faiblesses, et au vu de notre effectif global. On l'avait dit depuis le début, et c'est pour ça que beaucoup, comme moi, n'étaient pas forcément pour l'arrivée de Luis Enrique par rapport aux forces de notre effectif, aux forces de nos gros joueurs. C'est beaucoup de joueurs de transition qui ont besoin d'espace, qui ont besoin de partir de plus loin. Et du coup, forcément... un entraîneur a envie de mettre ses idées en place. Maintenant, pour ça, il a besoin des joueurs, il a besoin de l'effectif pour. Et aujourd'hui, au PSG, Luis Enrique n'a pas les armes, n'a pas les joueurs pour mettre ce qu'il veut vraiment en place. Il va falloir du temps et des joueurs qui vont arriver encore par la suite. Et pour le moment, du coup, il va devoir s'adapter à l'effectif qu'il a, à mettre des circuits de passe, etc. en place, un jeu de possession en place. Mais il sait très bien qu'il ne va pas pouvoir faire ça sur 90 minutes et que très souvent, on va être meilleur dans la transition face à certains adversaires. On a vu face à Nice, on avait moins le ballon, on a beaucoup subi aussi. Et même sur le match d'avant, où on a été face à Lyon très, très bon dans la transition et on a moins géré le ballon. Donc, il va devoir s'adapter et il a les joueurs pour le faire. Et dans tous les cas, c'est le défi de Luis Enrique cette saison. Continuer à être bon dans la transition et essayer de s'améliorer dans un jeu de possession, parce que c'est quand même ce qu'il veut de base pour dominer son adversaire, tout simplement.
Kevzor, il y a Lénat qui nous dit « Qu'est-ce que vous pensez de faire descendre Dembélé d'un cran qui soit le créatif du milieu de terrain ?»
Non, mais tu peux pas. Son profil de joueur, c'est un joueur qui a besoin de liberté, qui a besoin d'être en un contre un sur les côtés, qui a besoin de prendre de la vitesse. C'est pas un créatif. C'est un créatif par rapport à sa qualité de dribble et d'élimination. Mais c'est pas un créatif par rapport à ce qu'on a besoin au milieu de terrain. On a besoin d'un profil à la Bernardo Silva, à la De Bruyne, un profil en fait qui s'insère entre les lignes, qui est capable de se retourner, de donner le bon ballon, avec le bon dosage. D'avoir cette vision jeu, de frapper aussi, de frapper parce qu'on a peu de milieu de terrain qui frappe. Vitinha frappe beaucoup, mais malheureusement, pas convaincu que ce soit un grand frappeur de balle, même s'il avait mis un super but contre l'Inter Milan. Non, non, je pense pas que Dembélé, en fait, par rapport au système de jeu que Luis Enrique met en place, Dembélé est un joueur qui doit vraiment étirer la défense adverse et être trouvé en fait, face au jeu, quasi long de ligne, pour pouvoir prendre de la vitesse et éliminer parce que. Je trouve que Khéphren s'en sort très très bien hier sur les deux premières fautes qu'il fait sans carton jaune. Derrière, il fait une grosse grosse faute sur Dembélé où il prend
Ouais,
un jaune.
moi aussi, je pensais qu'il était sur le rouge.
Moi, je pense que Khéphren s'en sort bien de finir la première mi-temps sans carton rouge parce que je sais pas, c'est sur qui fait une grosse faute là, nos défenseurs.
Sur Warren Zaïre-Emery, il lui met une semelle en plein sur sa cheville.
Et même sur Danilo, je crois qu'il fait une grosse faute.
Ouais.
Il aurait pu prendre. Bon, il aurait peut-être pas fait cette faute sur Dembélé, bien sûr, hein,
Ouais.
Mais voilà, tu vois, je trouve que Dembélé est un joueur qui va. En fait, en une mi-temps, quand tu es un défenseur et que tu as un ou deux jaunes sur ta ligne défensive, comme le RC Lens avait, eh bien, tu ne peux plus défendre de la même façon. Et ça change la totalité d'une rencontre quand tu es défenseur et que tu dois jouer 40 à 60 minutes avec un carton jaune. Donc, moi, je pense que le profil de Dembélé, comment on l'utilise, est parfait. Il faut juste qu'il travaille la finition.
Recoba, il y a Vank officiel qui depuis tout à l'heure Marcel pour que je te demande ça. Est-ce que pour toi Skriniar mérite d'être titulaire au Paris Saint-Germain?
Bah pour l'instant, oui, il est passé à côté de son match hier, mais globalement, il a quand même été bon depuis le début de la saison. Donc, on ne va pas juger sur un match. Maintenant, c'est sûr que s'il enchaîne les prestations compliquées et qu'il se remet pas dedans, ouais, ça peut être compliqué, surtout avec le retour de Nuno et un Lucas Hernandez qui peut glisser dans l'axe, et même avec le retour de Kimpembe. Donc, il va falloir qu'il se batte pour sa place, qu'il progresse, qu'il arrive à bien s'entendre. Après, la charnière a changé aussi, hein. Skriniar, depuis le début, il joue avec Marquinhos. Là, il joue avec Danilo, c'est pas pareil. Donc, il y a quand même des circonstances atténuantes. Donc, faut voir la suite, faut voir les prochains matchs, mais faut pas tirer des conclusions sur un match. Il a été bon jusqu'ici. Donc voilà. Après, il a des gros défauts aussi, on le sait. Et par rapport au jeu de Luis Enrique, c'est sûr que pour moi, Marquinhos et Lucas Hernandez, c'est un peu plus compatible.
Ok, Jean-Louis, réponse simple. Bah, le joueur, il voulait aller au FC Barcelone, donc il est parti au FC Barcelone.
Et on
Voilà.
a, et on a, et Luis Enrique, Luis Campos avait refusé Gundogan en février au départ, donc on avait trop de retard sur le dossier.
Ok, question pour Cavzor. En LDC, milieu Kangin Lee, Ugarte, Vitinha titulaire. Est-ce que ça te plaît, Cavzor?
Non.
Pourquoi?
Ben, parce que pour moi, tu peux pas avoir en fait deux joueurs avec un volume de jeu aussi. Fait pas un volume de jeu, mais au niveau de la puissance, etc. Kangin Lee et Vitinha, c'est deux joueurs qui sont assez frêles. Donc, je suis pas forcément fan. Moi, je trouve qu'un Warren, en termes d'équilibre, si on lui met vraiment ce profil de créatif, va être vraiment très intéressant. Maintenant, mettre Kangin Lee et Vitinha ensemble, en sachant que, voilà, en soi, ça va manquer de calcium un petit peu sur certaines phases de jeu. Donc voilà. Mais par contre, je pense qu'un Kangin Lee peut être un joueur intéressant dans le profil qu'on recherche. C'est un joueur qui est capable d'éliminer, qui est capable de marquer, qui est capable de faire marquer. Et si je me trompe pas, moi j'ai pas forcément vu, mais quelques analystes de la Liga nous disaient que Kangin Lee à Majorque avait fait ses meilleurs matchs en numéro 10. Donc j'ose espérer que Luis Enrique, en tant qu'Espagnol, a vu certains de ses matchs. Je pense que concrètement, voilà, Kangin Lee peut être une alternative très intéressante. À Vitinha pour permettre, même concurrencer un peu Vitinha, je pense qu'il a aussi besoin de petites concurrences, de souffler, tout comme Warren, je pense. On a besoin d'avoir en fait un banc un peu plus étoffé pour que chaque joueur, comme nos défenseurs et nos attaquants, se mettent à un niveau d'exigence bien plus élevé.
Ok, dernière question les gars, après on clôture le live. Désolé pour toutes les questions qu'on n'a pas pu répondre, mais sinon on serait là jusqu'à 16h, vous avez l'habitude. Dernière question de Dylan Bilon Cochon 69, intéressant comme blaze. Moi j'ai une question pour tous les trois. Pour tous les trois, quels sont les joueurs de cet effectif qui auraient leur place dans le PSG de Laurent Blanc ou même Tourelle à part Mbappé? Bah déjà, il y a Marquinhos.
Ben ouais. Lucas Hernandez, je pense. Après, il y avait Thiago Silva.
Hakimi, les gars.
Hakimi, Meunier et tout ça, ouais.
Même, tu vois, sous Laurent Blanc, on avait Maxwell à gauche qui était très intéressant, mais ouais. Bon, qui permettait d'avoir un équilibre. Mais bon, je pense qu'il y a quand même Nuno Mendes qui est quand même très, très fort. Et
Navas,
aussi.
Ben, Navas, mais bon, après. Ou Didio.
Ouais,
on avait gardien.
Navas ou Didio, dans tous les cas, à la place de Sirigu.
Après, c'est pareil. On l'avait dit qu'il était quand même un profil intéressant, etc. Mais très, très inefficace aussi, même s'il marquait un petit peu. Tu vois, l'avait dit Dembélé, je pense qu'il y a largement match. Ou l'avait dit Lucas Moura, et Dembélé, il y a largement match aussi. Donc, je pense qu'on a quand même un effectif de qualité. En fait, le problème, c'est que c'est au milieu de terrain. Il n'y en a aucun qui rentre dans ce milieu de terrain qui était vraiment très, très fort à l'époque, Mota, Verratti et Matuidi. En sachant qu'en plus, le remplaçant était Rabiot. Hein.
Ouais, et puis là, comme tu le disais... Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, comme tu le disais, ouais, si en fait... on peut pas mettre Vitinha et Eli, genre au niveau des profils c'est trop similaire, et du coup le seul profil qui peut être complet à ce milieu-là, à Ugarte et à un Kanginli ou un Vitinha, c'est Warren. Et si tu sors Warren, t'as plus de profil comme lui. Fabian Ruiz c'est trop léger, Vitinha c'est trop léger, Soler c'est trop léger. Donc c'est incroyable d'en arriver là et d'avoir été aussi fort dans le recrutement devant et derrière, mais pas au milieu, c'est incompréhensible.
Mais même pour répondre en plus, il a commenté notre ami Dylan Bilan Cochon. Hakimi est largement meilleur que Serge Aurier, et pour moi il y a clairement pas photo. Serge Aurier, en fait, le problème qu'il y a avec certains de nos supporters, ça je l'entends, hein, c'est que dès qu'un joueur est natif francilien, je trouve qu'on est vraiment beaucoup plus beaucoup moins exigeant sur ses performances technico-tactiques que autre chose. Aujourd'hui Hakimi, il est très très critiqué, mais je vous garantis que tous les clubs, tout le top 4 européen aimerait avoir Hakimi dans son effectif, parce que même si on est critique par rapport à, il est pas toujours au top, ça reste une valeur très très sûre, hein.
Ok, bah les gars, merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de liker, je vous en prie, faites-moi ce service, abonnez-vous, parce que vous êtes plein à regarder sans vous abonner, ça nous aide énormément, donc likez et abonnez-vous, ça nous aide à nous développer, et rendez-vous peut-être dimanche avec une petite vidéo, sinon il y aura l'avant-match Dortmund et le débrief Dortmund mardi. Donc restez connectés sur Paris Central, passez un bon week-end les gars, n'oubliez pas que ici c'est
Paris.